Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version, grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Karim Sy. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Karim Sy, vous présentez succinctement, rapidement et difficile. Vous avez en effet les nationalités maliennes et françaises. Votre famille est installée au Sénégal où elle a ses origines. Vous vivez d'ailleurs à Dakar. Vous avez grandi en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, en France. Vous avez fait vos études au Québec. Alors ça m'amène à vous poser la première question. La mondialisation, c'est vous ?
C'est vrai que la mondialisation, je la porte dans mon ADN avec une mère libanaise. Et avoir effectivement parcouru différents pays et grandi entre différents pays et vécu dans différents pays et travaillé en plus dans différents pays. Donc je la vis au quotidien.
Et vos racines plongent profond dans l'histoire du Sénégal parce que vous nous confiez avant cette émission, à Julien Clémenceau et moi, que votre famille avait des origines royales. Les Sy étaient les rois d'un royaume qui s'appelait le Boundou.
Oui, le royaume des Boundou, c'est ça.
Qui remonte à quelle époque ?
Au 15e siècle, jusqu'à la colonisation française, un royaume théocratique musulman. Oui.
Et vous portez toujours cette responsabilité-là dans votre famille, cette charge-là ou cet honneur-là ?
J'ai grandi, on me disait il faut te faire un prénom et pas juste vivre sur ton nom. Et on nous rappelait l'importance qu'on avait sur le développement de la région, du pays. Et comme c'est un royaume théocratique musulman, forcément lié à des valeurs importantes de bien commun, on va dire.
Quand on lit les articles qui vous sont consacrés dans la presse écrite, comme on le fait toujours pour préparer ces émissions, vous êtes souvent décrit comme le fondateur de Jocolab, le premier espace de coworking au Sénégal. Mais avant de créer cet espace entre les traditions, les valeurs attachées à votre histoire familiale et la création de cet espace, votre parcours, quel est-il ?
J'ai un parcours entrepreneurial, en fait, très tôt, dès l'École Polytechnique de Montréal. J'ai initié des projets entrepreneuriaux, d'abord dans l'associatif, où on a monté une structure qui identifiait tous les ingénieurs et scientifiques d'origine africaine dans la région du Québec. Donc 25 000 ingénieurs et scientifiques qui avaient été identifiés. On avait monté le Cascade pour faire le transfert de technologie, pouvoir apporter de fil en aiguille, en fait. Je me suis impliqué dans un projet de pompe à eau manuelle pour rentrer d'abord au Mali et ensuite enchaîner sur des projets de forage hydraulique minier, une société de forage hydraulique minier. C'était une des premières sociétés maliennes dans ce sens-là. La petite mine, l'aviation d'affaires. 97 au Sénégal, l'un des premiers intégrateurs informatiques avec OpenSys. Enfin, beaucoup de projets.
Alors, on va en parler, mais au cours de cette émission, nous allons aussi parler de l'essor des nouvelles technologies en Afrique, du regard que vous portez sur l'économie du continent, et aussi nous allons parler du rôle que vous jouez au sein du CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, créé l'an dernier pour conseiller Emmanuel Macron et dont vous êtes membre. Première question de Julien Clémenceau.
Karim Sy, vous avez lancé Jocolab en 2010 au Sénégal. C'était un des tout premiers lieux en Afrique de l'Ouest consacré à l'innovation. Qu'est-ce que vous vouliez créer ?
En fait, dès le départ, on parlait d'écosystème. En fait, moi, j'ai la chance dans mon parcours, on en a un peu parlé. On a plus parlé du côté entrepreneurial, d'avoir vécu. Et d'avoir expérimenté en fait différents niveaux. Un, au niveau micro, donc avec mes entreprises. Au niveau méso, parce que j'étais impliqué dans les organisations patronales et associatives, et même très tôt d'ailleurs, certains mouvements associatifs dès l'âge de 15 ans, dans la mouvance des Rotary, les Rotaract, etc. Jeune chambre économique internationale. Et par ailleurs, au niveau macro, puisque j'étais représentant du secteur privé, par exemple, j'étais vice-président de la stratégie de croissance accélérée au Sénégal. Donc,
oui, on y reviendra.
Donc sur toutes ces approches macro, où on doit réfléchir à la politique de développement. J'étais même expert externe pour le ministère des Affaires étrangères de Hollande, ce que peu de gens savent, sur les questions de commerce international.
De Hollande, vous voulez parler de l'ancien président français ou des Pays-Bas?
Non, des Pays-Bas, effectivement, il faut le préciser. Et donc, et aussi pour le centre du commerce international. Donc j'ai eu plusieurs vies, on va dire. Et de toutes ces expériences, la première chose qui me frappait, c'est que ces mondes ne se parlent pas quelque part. Chacun est en silo. Et on voit bien que les technologies apportent quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elles cassent les silos et elles permettent de réfléchir et d'interagir à un niveau en plateforme, comme on dit, qui s'est jamais fait. Et donc, avec JoCollab, c'était un peu l'expérience de tout ce parcours. Joco en Wolof, c'est-à-dire le lien, la connexion, la communication. Et donc, il me semblait important de faire du lien entre tous ces mondes-là. En plus, l'analyse de prospective aujourd'hui nous est clairement... Alors, je venais de lancer un grand projet dans la finance à l'époque, en 2006, on a vécu de plein fouet en 2008 la crise financière. Et donc, ça m'a amené à réfléchir l'Afrique et le monde. Et on voit bien qu'on est confronté aujourd'hui à des défis qui sont juste extraordinaires. Et bien sûr, les technologies l'ont anticipé, puisqu'on parlait de du sommet mondial de la société de l'information depuis 2000. Donc, des grands défis, des transformations phénoménales avec une nouvelle économie qui est en train d'émerger. Donc, tout un tas de fenêtres d'opportunités, mais aussi des risques. Et donc, en fait, JoCollab, la vocation de JoCollab, c'était de faire une maison qui nous permette d'anticiper ces mutations et de se les approprier. Et
quelle ampleur a pris aujourd'hui JoCollab?
Alors, on est parti d'une toute petite initiative, hein, comme on l'a dit. Aujourd'hui, on est sur 9 pays, on a une douzaine de hubs, on en a d'autres qui sont en train d'ouvrir. 9 pays dont la France, d'ailleurs.
Donc vous pouvez donner les pays dans lesquels vous êtes présent?
Pour l'instant, on est principalement au Maroc, Cameroun, Sénégal, Burkina, Mali, Gambie, Bénin. Voilà.
Vous le disiez, vous avez participé à la stratégie de croissance accélérée du Sénégal. Hein. Vous étiez vice-président de ce qui concernait les nouvelles technologies de l'information, donc entre 2004 et 2014. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience?
C'est de voir comment un État peut anticiper justement cette transition numérique, de mieux comprendre les mécanismes d'un État dans ces dynamiques-là. Puis c'était déjà une première volonté de faire un lien entre le secteur privé et l'État, finalement, dans la réflexion, dans la prise de décision, dans les modalités d'agir. Il y a quelques succès, hein, un des incubateurs de référence aujourd'hui, le CETIC, est un des résultats de ce qu'on a fait.
Mais le CETIC, c'est quoi? Le
CETIC, c'est un incubateur au Sénégal.
On va réexpliquer ce que c'est, en deux mots, ce que c'est qu'un incubateur.
On va dire que alors il y a plusieurs définitions, mais pour résumer, on va dire que c'est un espace où on a du support aux entreprises naissantes, et donc on les incube pour leur permettre de grandir.
Julien Clémenceau.
Cette expérience au sein de la stratégie de croissance accélérée du Sénégal, en lien avec les politiques, est-ce que ça a changé votre regard sur les politiques en Afrique?
Le regard, ça a changé, c'est que c'est trop lent. Et face aux enjeux d'aujourd'hui qui doivent être beaucoup plus rapides. Et clairement, mais au-delà du Sénégal, hein, dans d'autres pays où on a eu à intervenir, je le disais, j'intervenais pour le ministère des Affaires étrangères hollandais ou d'autres. J'ai intervenu en Ouganda, au Ghana, au Bénin, enfin dans plusieurs pays. On a quand même une vraie question qui se pose en termes de prospective et de compréhension des différents enjeux. Et par ailleurs, j'ai la conviction aujourd'hui que ces réflexions doivent aller de manière beaucoup plus large. Quels sont, vous savez, un expert dans son étymologie, c'est expertus, c'est quelqu'un qui a une expérience sur quelque chose. Et moi, j'ai toujours été marqué, et ça, je pense, c'est depuis le début de mes premières interventions quand j'avais installé des pompes à eau, on venait en expert, on disait, ben voilà, on va le faire là, ça va se passer comme ça, et finalement, quelque part, les villageois n'étaient pas intégrés. Bon, on remonte il y a une vingtaine d'années. On parle de plus en plus d'approche participative, alors et c'est assez intéressant, parce que cette approche participative est poussée à l'extrême, et voire même communautaire, dans les démarches des ONG ou des gens sur le terrain, et au niveau de l'État, on reste quand même avec des dynamiques, surtout en zone francophone, où on a un peu hérité de l'État central français, avec des dynamiques très centralisées, très pensées par le haut, et donc impliquant peu les gens, avec juste beaucoup de formats de représentation, et finalement qui se détachent de ce qui se passe sur le terrain.
Alors, on y reviendra plus tard, mais visiblement ça ne vous a pas vacciné, puisque vous avez accepté de participer au Conseil pour l'Afrique du président Macron.
Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi faire des ponts entre justement ce niveau macro et le niveau micro. Donc durant mon parcours, au début d'ailleurs, quand j'ai lancé Jocolab, j'avais voulu quitter toutes ces fonctions-là, et représentation, et je me rappelle, les jeunes m'avaient dit « Ah non, parce que comme ça, t'es notre voix ». Et effectivement, il faut créer des ponts. Et encore une fois, Joco, c'est le lien, donc il faut créer des liens entre ces mondes, ce qui n'est pas évident. Parce que chacun a leur langage, ils ont leur code, ils ont leur manière de fonctionner. Donc il faut arriver à faire la jonction entre tous ces mondes.
Karim Si, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On le voit depuis le début de cette émission, vous avez l'habitude de passer les frontières sans problème. Parce que vous avez deux passeports, parce que vos affaires vous amènent dans le monde entier. Pour beaucoup d'Africains qui veulent venir en Europe en particulier, ce n'est pas le cas. On le sait. Pourtant, la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, vient de publier un rapport dans lequel elle insiste sur l'importance de l'expatriation des citoyens africains pour l'économie du continent. L'une des économistes à l'origine de ce rapport était il y a quelques jours au micro de Stanislas Daichimier du service économie de RFI. Écoutez les explications de Mila Soa, Cheryl Robson.
Le message principal, c'est que les migrations sont nécessaires pour le développement de l'Afrique. Donc les migrations extra-continentales, donc les migrations en destination de pays hors du continent, mais aussi les migrations intra-continentales. Dans certains pays, les sources de revenus et d'impact sur le secteur productif sont telles que vous avez un impact sur le PIB de l'ordre de 15% et même plus. Donc, ce n'est pas négligeable, si vous voulez, en termes de part aussi, des capitaux privés, de plus en plus, les fonds transmis, envoyés, transférés par les migrants, sont plus conséquents que ce que les pays reçoivent en termes d'aide internationale. Nous nous sommes penchés sur la question de commerce de denrées alimentaires, de produits vivriers, puisque la question de la sécurité alimentaire est encore, je dirais, une préoccupation pour de nombreux pays sur le continent. Et nous avons donc pu démontrer qu'une facilité dans le mouvement des personnes, liberté de mouvement, de commerce, etc., entraînerait une hausse du commerce des denrées alimentaires au niveau intra-africain.
C'était donc l'économiste Mila Soa, Cheryl Robson de la CNUSED au micro de Stanislas Daichimier. Vous pensez aussi, vous, Karim Si, que l'expatriation des Africains est une bonne chose pour l'économie du continent ?
La diversité est une richesse, donc moi j'en suis convaincu, j'en suis l'exemple évident. D'ailleurs, Amadou Mpateba disait que la beauté d'un tapis est la diversité de
Amadou ses... Amadou Mpateba, c'est un grand écrivain malien.
Donc la diversité de ses motifs et de ses couleurs, et donc de la même manière, je pense qu'effectivement c'est un enrichissement de partout. Vous savez, l'eau pure, ça devient de l'acide. Donc dès ce moment-là, il faut se mettre dans une autre perspective. On le voit à Lumoy. Lumoy, la liberté de circulation des populations.
Et c'est Lumoy, c'est l'Union économique.
Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Et donc, on voit bien que c'est un enrichissement des différents pays. Il y a une zone de circulation évidente. L'Europe l'a vécu. Je pense qu'effectivement, quand on regarde la question des migrations, en Afrique, la migration est principalement interne, plus que externe d'ailleurs. Mais partout, c'est une richesse, même cette migration en France ou ailleurs.
Donc vous pensez que la migration africaine vers l'Europe est une richesse pour les migrants comme pour les pays d'accueil ?
Elle est toujours un enrichissement, de toute manière, de tout temps, on avait des pèlerinages où les gens allaient.
Et il faut encourager les Africains à émigrer vers l'Europe?
Non, alors maintenant, la question, c'est pas de d'immigrer pour immigrer. Il y a l'immigration de désespoir, je pense que ça, c'est plutôt triste, et aujourd'hui, un vrai problème. C'est un problème pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement d'opportunités en Afrique que de voir des gens se faire racketter déjà des sommes phénoménales qu'ils auraient pu peut-être investir dans des projets. Moi, j'en ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah, tu peux nous faciliter, on veut aller au Maroc, on veut aller en France, etc. » Et qui mobilisent de l'argent pour ça. 5 à 10 000 euros pour faire la traversée. Ces 5 à 10 000 euros bien investis auraient peut-être pu leur permettre de développer une activité. Donc, finalement, il y a une sorte de cassure du rêve, il y a une question de manque de confiance en soi et dans la capacité du pays et l'environnement qui est rude, il faut le reconnaître, qui fait que il y a cette envie de partir vers un Eldorado qui est aussi entretenu. Des fois, on a l'impression, on dit « Ah, les migrants envoient de l'argent » et tout, comme si c'était une personne qui envoyait des milliards, mais c'est l'accumulation de plusieurs personnes qui vivent dans des situations qui peuvent être assez compliquées. Mais quel qu'il en soit, le voyage est une richesse. Ça, on ne peut pas le nier de tout temps, de toute. On l'a toujours favorisé. Et c'est dans ce sens-là que, effectivement, la migration apporte quelque chose. Maintenant, l'Afrique a finalement un retard en termes de politique, dans le sens où l'Afrique n'est pas intégrée aujourd'hui. C'est 54 pays, des zones régionales qui n'ont pas forcément une facilité de liberté d'action. Vous avez le milliardaire nigérian Dangote qui avait fait une boutade en disant que un Anglais a plus de facilité à voyager en Afrique que lui.
Que lui Dangote,
qui devait avoir, je sais plus, 34 visas pour voyager. Et effectivement, moi, il m'arrive souvent d'avoir plus de facilité à voyager dans des pays africains avec mon passeport français qu'avec un passeport d'Afrique de l'Ouest. Donc on a un sujet à ce niveau-là.
On parlait d'immigration aussi vers la France. Qu'est-ce que vous pensez des lois très restrictives que font voter les gouvernements européens et notamment français, et notamment le gouvernement actuel auquel vous apportez votre concours au travers du CPA? Quel regard vous avez sur le durcissement?
CPA, c'est le Conseil présidentiel pour l'Afrique.
Le durcissement des législations en ce qui concerne le voyage et la possibilité de voyage des Africains vers la France et la liberté de circulation que vous appelez de vos voeux, finalement, qui était un...
Alors, il y a double chose. Vous savez qu'à Ouaga, le président avait, dans son discours de Ouaga, avait annoncé justement la facilité des visas vers ceux qui avaient étudié en France, et c'est quelque chose qui a été renforcé et qui est en train d'être suivi. Ça, c'est par exemple le type de choses qu'on recommande. Je pense qu'il y a une circulation qui est vertueuse et il faut la favoriser. C'est un enrichissement des deux côtés. Un enrichissement aussi bien de la France que par sa diversité et enrichissement de l'Afrique, parce que des expériences ont été prises dans d'autres pays pour ensuite retourner au pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui n'est pas vertueux, c'est d'immigrer pour immigrer. C'est-à-dire, et surtout d'immigrer dans une situation de désespoir. C'est-à-dire, quand on voit les conditions dans lesquelles ces gens-là voyagent, et qui meurent tous les jours, je pense que ça doit tous nous interpeller. Il y a une crise humaine. Ça nous interpelle en tant qu'humain, non seulement sur pourquoi.
Mais vous comprenez que la France, les autres pays, États européens durcissent leur législation, et vous pensez que c'est la chose à faire?
Je comprends, oui, j'entends en tout cas, mais je pense que tout repli identitaire est risqué. Je pense que le sens de l'histoire ne va pas dans ce sens-là. Le sens de l'histoire, c'est une population africaine, de toute manière, qui va devenir l'une des plus importantes sur la planète. Ceci dit, il y a énormément d'opportunités en Afrique, et on l'a dit, la migration est principalement africaine. L'Europe a un sentiment aujourd'hui d'envahissement, c'est aussi dû aux images qu'on voit à la télé, etc., où on a l'impression qu'il y a une espèce d'invasion qui arrive, alors que finalement, quand on met les ratios en termes de chiffres, c'est juste ridicule. Je crois qu'en France, on parle de 250 000 pour une population de 60 millions d'habitants. Je veux dire, on voit bien.
On est plus près des 70 millions.
Ouais, donc, c'est vraiment ridicule. Ça peut être facilement absorbé, en tout cas.
Est-ce que il vous semble que la montée des populismes, de la xénophobie, traduit un rejet de l'Afrique en Europe, dans les pays européens?
C'est pas qu'en Europe, et il y a aussi un rejet de l'Europe en Afrique, si on fait pas attention. En fait, c'est mondial. On le voit aux États-Unis, on le voit dans différents pays.
Qu'est-ce qu'on voit? Un rejet de l'Afrique?
Non, même en général, le rejet de l'autre. Je pense qu'il faut le généraliser. C'est-à-dire aujourd'hui, face au... On est dans une période de transition, encore une fois, donc il faut aussi monter en termes d'analyse, qui est en train de créer une tension sociale, culturelle, politique, économique. On a des économies qui sont en train de se muter, donc avec la destruction de l'emploi massif, le changement de la nature de l'emploi, etc. Donc les gens ont juste une réaction de peur, et dans cette réaction de peur, on peut avoir une réaction de vouloir se replier sur soi-même et se dire « Ah, mais j'ai une espèce de réaction de survie, j'ai mon petit quelque chose, je veux pas le partager. » Alors que on devrait plutôt être dans une démarche de se grandir et de commencer à penser, parce qu'une fois, encore une fois, ces défis sont mondiaux, et donc c'est-à-dire que la réponse sera mondiale.
Karim Si, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Cette semaine, quelqu'un que vous devez connaître, un peu en tout cas, Emmanuel Macron, a prononcé un discours au siège de l'OCDE à Paris, et il a pointé du doigt quelque chose que vous venez d'évoquer à demi-mot, les défaillances de la mondialisation. On écoute le président français.
Notre mondialisation contemporaine, ces dernières décennies, a aussi profondément bousculé nos sociétés. Comment penser que nous pouvons durablement vivre dans un monde où la richesse par habitant est 50 fois supérieure dans les pays de l'OCDE à ce qu'elle est dans les pays à faible revenu? Comment ne pas voir l'empreinte d'une mondialisation débridée et d'un progrès mal maîtrisé dans le creusement des inégalités sur un même territoire entre ceux qui sont connectés et ceux qui ne font que subir les évolutions du monde? De nouvelles fractures sont apparues, en particulier ces 20 dernières années. Parce que cette mondialisation s'est d'abord financiarisée et elle s'est numérisée. Et ces deux phénomènes ont accru la concentration de la richesse dans quelques régions du globe, la concentration de la richesse dans les pays les plus développés dans les métropoles, et la concentration de la richesse dans la main des superstars, des plus innovants, de celles et ceux qui savent réussir, des nomades de ce monde, au détriment bien souvent des sédentaires, fragilisant le grand récit, la grande aventure qui était collectivement la nôtre, celle qui consistait à promettre aux classes moyennes le progrès pour elles-mêmes et leurs enfants.
Emmanuel Macron, à l'OCDE, les nomades, les vainqueurs de la mondialisation, les stars qui concentrent l'essentiel de la richesse de cette mondialisation que décrit Emmanuel Macron dans ce discours, c'est vous, Karim Si. C'est vous la star, c'est vous le nomade, c'est vous qui concentrez l'essentiel des richesses.
Non, quand même pas, mais justement... Je pense que
quand
c'est
même un peu.
Et c'est là justement où ça nous interpelle en termes de responsabilité. Et tout l'objet de mon travail initié avec Jocolab, c'est justement de dire qu'aujourd'hui, cette mondialisation, cette réussite qu'on peut avoir, ne peut plus être individuelle. Il faut forcément se remettre dans un récit collectif, comme l'a dit le président Macron, où on partage et on revient à des valeurs, et donc on revient encore aux valeurs, où on peut pas juste s'occuper de son propre intérêt, et donc il faut quand même qu'on se préoccupe du bien commun, il faut quand même qu'on se préoccupe de la collectivité, au-delà de son simple petit réseau, et on est en train de se rappeler que la collectivité, en fait, c'est pas juste nos voisins d'à côté, c'est finalement le monde, c'est finalement la nature, c'est finalement et tous les défis écologiques, etc., sont en train de nous le rappeler. C'est-à-dire, on s'est oublié quelque part dans le chemin de cette course à la mondialisation, où on a fait des choses certes magnifiques, mais à côté, on a détruit la nature, on a oublié qu'on en faisait partie. En détruisant la nature, on a détruit aussi d'autres personnes. On a oublié qu'on était interreliés, que quelque part, ce qu'on fait à l'autre nous revient. C'est un peu l'Ubuntu et toutes ces valeurs que l'on a. Et je pense que ce qui est intéressant...
Ubuntu,
c'est tu es parce que je suis. En fait, on existe en tant qu'humain que parce qu'on est en interrelation avec les autres. Donc, ce qu'on fait aux autres, on est en train de le faire à soi-même. Aujourd'hui, on est dans cette pièce, on respire le même air, et en fait, quelque part, on interagit des particules que l'on se partage, même si on le voit pas. Et on peut étendre ça beaucoup plus loin. Et donc on voit bien qu'on est en train de revenir à des notions. On est rentré dans un hyper-individualisme. Il faut revenir à une logique plus collective.
Vous croyez que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il partage ce point de vue?
Mais s'il le partage pas, ce qui est en train de se passer et qui est justement extrêmement intéressant, je pense, depuis la semaine passée, c'est qu'on interpelle pour un tech for good. C'est qu'on commence à dire, attention, il faut réconcilier, et le président l'a dit clairement, il faut réconcilier la technologie et le bien commun. Il faut donc revenir à une valeur de ces technologies pour qu'elles puissent participer. Elles ont un pouvoir transformateur incroyable. Elles sont en train de nous amener à une vitesse d'ailleurs phénoménale, ce qui fait qu'on a du mal à réagir. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à réagir. On a un responsable politique qui s'est engagé pour créer cette dynamique-là. La France et l'Europe se sont engagées aussi. On parle de protection des données. Les États-Unis viennent de se réveiller avec l'affaire Facebook, justement, et de réaliser que, attention, on est aujourd'hui...
Avec les fuites de données.
Avec les fuites de données, avec les risques de manipulation des élections qu'on a pu voir. On parle des États-Unis. Et donc, on peut imaginer sur les autres pays. Donc, aujourd'hui, il est urgent de se repenser, de ne plus subir et justement d'être à l'origine d'une vraie réflexion pour penser le monde de demain. Et penser le monde de demain, ça ne se fera qu'avec tout le monde.
Alors vous, pour agir, vous avez accepté de rejoindre, on l'a dit en début d'émission, en août dernier, le Conseil présidentiel pour l'Afrique. À quoi ça sert?
Ben le Conseil présidentiel a vocation à conseiller le président Emmanuel Macron, donc directement. Hein.
Vous faites sa politique africaine?
Non, dire qu'on l'a fait, c'est, je pense, excessif. On échange avec lui sur des sujets, effectivement, sur la politique africaine. On lui donne des points de vue. Et donc, il a en cela complètement innové, puisqu'on voit bien que les profils sont des profils qui viennent d'un peu partout. On a même une Kenyane, Yvonne Mourou, une Sud-Africaine avec Nomaza. Donc, on voit qu'on a une diversité du tout Afrique, déjà. Donc on sort,
du tout Afrique entrepreneuriale.
Tout Afrique, non, pas qu'entrepreneuriale. Nomaza est dans la culture, Elisabeth est dans les médias, est très impliquée auprès des jeunes. On a vraiment une diversité d'action. Vous avez Jimmy qui est dans le sport. Donc aujourd'hui, justement, on touche à la jeunesse qui voulait. Il y a beaucoup de jeunes. Hein,
Comment ça se passe? Vous réunissez de manière périodique? Okay. Ce sont des discussions à bâton rompu? Vous remettez des fiches? Comment ça fonctionne?
Oui, alors il y a bien sûr les rencontres avec le président, mais sinon c'est effectivement on se rend compte, on a aussi des auditions de différentes personnes, on échange, on rencontre, et c'est surtout finalement aussi dans ce qu'on fait au quotidien, puisqu'on est au contact au quotidien avec le terrain, c'est pas des gens qui sont assis dans leur bureau à Paris. On parle de gens qui ont une action sur le terrain régulière et des interactions avec différents publics africains. Donc il faut savoir qu'à côté, il y a toute la diplomatie classique et les organisations françaises hein, qui fonctionnent et donc on n'a pas vocation à les remplacer. Mais par contre, il s'agit de donner une autre sensibilité, une autre vision du terrain. Et on voit bien que ça donne quelque chose. Quand vous voyez aujourd'hui, quelque part, l'Afrique est mise à l'honneur à VivaTech, c'était pas gagné au départ.
On parlera tout à l'heure de cette réunion importante qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris. Une autre question de Julien Clemenceau.
Ce Conseil présidentiel pour l'Afrique, qu'est-ce que ça dit de la stratégie d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va être le président français? Est-ce qu'il va être, merci Jean-Pierre, le président français qui va définitivement enterrer la France-Afrique?
Ah ben elle est déjà enterrée la France-Afrique, donc...
Elle était sous François Hollande?
Ah je sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de France-Afrique, donc le sujet, c'est même pas un sujet en fait.
Mais la France-Afrique c'est pas seulement les hommes politiques français versus leurs confrères africains, c'est le monde de l'entreprise française, versus le monde politique africain. Et ça c'est dissous, ça n'existe plus.
Moi, je la vois pas, en tout cas. Et si je vous renvoie encore au discours de Ouaga, alors on peut dire que c'est un discours, mais un discours quand même montre un chemin et une direction. Vous verrez que dans une partie, on interpelle les sociétés françaises pour leur demander d'être exemplaires dans leur comportement en Afrique.
De plus faire circuler de valises de billets.
Oui, et puis aujourd'hui, vous avez aussi des réglementations européennes sur la corruption, etc. Je pense que, et c'était un monde. Donc ce monde est parti, et la plupart sont morts, ou bien sont plus aux affaires. Donc c'est un état d'esprit qui a complètement changé. On arrive avec une nouvelle relation. En plus, s'il y a un président qui peut être exempté de cette approche, c'est bien le président Macron, puisqu'il a une jeunesse qui fait qu'il a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé, et il a un détachement que nous tous avons d'ailleurs par rapport à cette période coloniale et ce qu'il en a suivi, et ce qui fait qu'il y a un discours complètement décomplexé au sein du CPA et même en interaction avec le président.
Est-ce que les Africains, ses interlocuteurs, l'ont compris? Est-ce que vous avez l'impression que le message est passé et que, parce que pour avoir cette relation France-Africaine, il fallait deux parties, une partie française et une partie africaine qui se mettaient d'accord sur les us. Est-ce que ça a disparu aussi du côté africain? Il n'y a plus cette demande-là?
Moi, je dirais peut-être on va sentir très, très, très concrètement une différence de génération. Les vieilles générations, souvent impliquées dans les affaires et dans la politique, peuvent être enclines à vouloir conserver ça, puisque aussi, on voit bien que ce type de système ne favorise pas la méritocratie, ne favorise pas le déploiement des vraies capacités du continent. Donc en fait, c'est juste un système destructeur. La jeunesse aujourd'hui n'a juste pas envie d'entendre ça. Moi, j'ai grandi dans un esprit où on a rien à voir avec la France-Afrique. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été étudiés au Canada. Mon père avait fait Supélec. Donc on a une ouverture au monde qui est complètement différente. Et donc forcément, le rapport ne peut plus être dans cette logique-là. Ça n'a juste aucun sens.
Karim Si, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On part en Corée du Sud où se tenaient il y a quelques jours à Busan les 53e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. 3000 participants, banquiers centraux, des ministres, des chefs d'entreprise, petites et grandes, mais aussi des personnalités de la société ont débattu pendant une semaine des moyens d'accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Ce qui a aussi été relevé à cette occasion, c'est le rôle très important des investissements chinois dans les infrastructures africaines. Que faut-il en penser? Écoutez la réponse de l'économiste de la Banque africaine de développement, Amadou Boly, au micro de l'envoyé spécial de RFI, Mounia Daoudi.
Je dirais a priori que c'est une bonne chose parce qu'on sait que l'Afrique a un gap de financement en infrastructure qui est estimé entre 130 milliards à 170 milliards de dollars. Donc c'est un gap important et le financement de la Chine dans ce cadre est bienvenu. On peut se poser la question de savoir s'il peut y avoir un surendettement ou pas. Mais vraiment, l'important, c'est de voir comment est-ce que ces fonds sont investis et quels sont les profits que les économies en retirent. Donc, je pense que vraiment, c'est ce sur quoi il faut se concentrer.
Pourquoi la Chine investit comme ça dans les infrastructures?
Parce que je pense que, d'abord, ça doit être un domaine qui est rentable. Et c'est un domaine qui peut agir comme catalyseur pour d'autres parties de l'économie. Donc si on prend le transport par exemple, l'investissement dans le transport permet d'avoir un effet de levier sur d'autres secteurs, essentiellement sur le commerce par exemple, sur l'intégration africaine. Le transport est un élément clé. En termes d'investissement dans l'énergie, c'est aussi extrêmement important pour toute chose, pour les industries manufacturières. On parle d'industrialisation. Il n'y a pas d'industrialisation sans énergie. Donc je pense que, premièrement, les infrastructures en Afrique, c'est un domaine qui est important et qui est rentable à long terme. Je pense aussi que la Chine est en train de suivre un modèle qu'elle a elle-même utilisé.
Quelles conséquences peut avoir cet endettement sur les économies de ces pays africains?
Si effectivement les fonds ne sont pas bien utilisés, et s'ils ne sont pas investis dans des projets qui sont rentables à long terme, on peut se trouver dans une situation où il n'y a pas de retour sur investissement. Et dans ce cas, essentiellement, les pays africains pourront se retrouver en situation de, non-paiement ou de surendettement.
L'économiste de la Banque africaine de développement Amadou Boly, interrogé par Mounia Daoudi à Busan en Corée du Sud, où se tenait l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Karim, si on a l'impression que ces gros dossiers de macroéconomie, d'économie politique, d'équilibre des comptes publics sont loin de vos préoccupations, mais l'endettement des budgets africains, c'est quelque chose que vous observez, que vous regardez, ça vous concerne ou pas ?
Ah bien sûr, en tant que citoyen des pays africains, déjà ça me concerne, et ça concerne mes enfants. Donc oui, parce que et en manière générale, je pense que l'Afrique intéresse le monde, certes pour les opportunités qu'elle présente, mais parce que je pense que l'Afrique va être la bascule en fait par rapport à l'avenir, c'est-à-dire la manière dont l'Afrique va rentrer dans l'économie mondiale. Soit la terre va le supporter, ou va pas le supporter. Est-ce qu'elle investit dans de l'énergie propre ou pas? Est-ce qu'elle fait des villes durables? Est-ce qu'elle va consommer de quelle manière elle va le faire? On voit très bien qu'aujourd'hui, si ça se fait dans la manière dont ça se fait aujourd'hui, c'est quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire si elle se met à consommer comme un Européen moyen ou autre, la terre ne le supporte pas. Donc en fait, à l'échelle de la planète, on n'a pas de plan B, on n'a pas deux planètes.
Et donc l'Internet joue un rôle important là-dedans ? Dans la manière dont l'Afrique va s'industrialiser, s'enrichir, consommer ?
Tout à fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, il s'agit de réinventer un modèle. Il ne s'agit pas de copier un vieux modèle. Puisque aujourd'hui, la question en Occident, c'est comment on change de modèle. La problématique qui va se poser en Occident, c'est comment est-ce que je gère des actifs qui sont là, comment je les amortis et comment je passe à un nouveau modèle. Là où en Afrique, on démontre une capacité justement de sauter les modèles, et donc le fameux leapfrog, être dans une dynamique de rupture et tout de suite passer à un nouveau modèle. Ceux qui aiment les films vous diront le Wakanda, comment on saute de rien au Wakanda avec l'aide de tout le monde, et en fait quelque part réinventer le monde de demain, parce que demain c'est quoi la question? Comment est-ce qu'on va nourrir des populations de plus de 7 à 10 milliards de personnes à l'échelle mondiale, j'entends, hein, quand vous avez 60% des terres arables non cultivées qui sont en Afrique? L'Afrique fera partie de la solution. Comment est-ce que vous faites pour accéder à de l'énergie ou à un développement qui est non carboné, quand on sait que le plan climat qui a été fait à Paris n'est pas respecté aujourd'hui? On est là où on devait maintenir à 2 degrés, on est déjà à 3,5. C'est-à-dire on a dépassé et donc personne n'a respecté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est la planète qui est en danger et donc les humains qui sont dedans. J'ai vu un documentaire dernièrement sur Tchernobyl. Les humains ne peuvent pas approcher de la centrale, mais par contre, on voit des biches, on voit des fleurs, etc. Donc la nature est là. C'est nous qui ne sommes pas là. Donc il faut quand même qu'on se pose la question aujourd'hui. On a l'impression que le comportement que tout le monde a aujourd'hui, c'est ceux qui étaient sur le Titanic en train de danser pendant que le bateau il était en train de prendre l'eau. Et donc, plus largement, le risque de la Chine que tout le monde évoque, c'est comment sont contractés ces prêts, parce qu'il ne s'agit pas de réendetter. Il faut voir que les pays africains ont été désendettés, puisque donc il y a eu des négociations sur la dette a été annulée bien souvent. Et donc il ne s'agit pas de se réendetter, donc pour se mettre un boulet au pied face à justement une possibilité de faire repartir les pays, et donc d'utiliser cette capacité qui a été donnée pour se réendetter mal, parce que du coup c'est quel projet dont on est en train de parler? Il s'agit de projets. Quand on parle d'infrastructure, c'est des projets qui engagent l'avenir. Et donc, comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir? Et dès ce moment-là, quand on parle d'une économie numérique, on parle de nouvelle économie qui est en train d'émerger, d'un nouveau monde qui est en train d'émerger, comment est-ce qu'on l'anticipe?
Mais est-ce que vous avez l'impression que les investissements chinois ou autres qui peuvent être faits en ce moment en Afrique préparent à cette bascule que vous appelez de vos voeux, que vous évoquez, à ce nouveau monde que l'Afrique devrait ou pourrait inventer?
L'Afrique, c'est 54 pays, c'est un géant. Et donc, c'est une diversité juste incroyable. Donc, je pense qu'il y a des investissements chinois qui sont très bien, parce qu'ils ont été bien pensés au départ. Et donc là, il y va de la responsabilité des gouvernants de penser justement une politique qui va bien et qui va dans le sens d'un développement qui prend en compte le futur, et donc un futur qui anticipe ce qu'on est en train de vivre. Et il y en a d'autres qui malheureusement sont comme d'habitude, voilà, qui ne servent pas à grand-chose, qui coûtent très cher et qui ne vont pas nous faire avancer.
Alors, question précise de Julien Clémenceau.
Alors, s'il y a un président africain qui donne l'impression de se projeter dans l'avenir, c'est le président Kagame, qui était à Vivatech la semaine dernière, le salon dédié à l'innovation. Depuis plusieurs années, il s'est fait chantre des nouvelles technologies, en Afrique centrale notamment, dans sa région. Est-ce que, au niveau du Rwanda, on est sur un changement véritable ou est-ce que on est dans de la propagande?
Alors, je connais pas assez le Rwanda pour pouvoir dire de manière extrêmement argumentée, si c'est de la propagande ou pas. Ce que je sais, c'est que c'est clair qu'on est parti d'un pays qui était complètement exsangue après un génocide. Et qu'aujourd'hui, pour y avoir été, il y a même pas deux semaines, dans le cadre du forum Transform Africa, qui est justement la grande initiative Kagame, où il a fédéré pas mal de présidents africains autour de justement s'approprier les technologies, et donc... Comme le disait Macron tout à l'heure, ne pas subir et plutôt être acteur. On voit qu'effectivement, là, on est dans un pays qui on sent que ça bouge, on sent que il a réussi.
C'est-à-dire, quels sont les projets qui vous donnent cette impression que...
Ah ben, il a mis les projets d'infrastructure qui sont là. Il a osé des projets, mais pas seul. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire parce que des fois on entend l'Afrique aux Africains et nous-mêmes on va penser notre développement. Mais en fait, ce qu'il s'agit, c'est de penser avec toutes les bonnes volontés comment le faire. On voit Zipline, société américaine avec qui ils ont réfléchi l'usage des drones pour aller délivrer des médicaments en zone rurale. Donc là, on est dans la rupture. On n'est plus dans du conventionnel. On est en train de penser justement comment est-ce qu'on veut se protéger, se projeter, et donc à ce niveau-là, comment est-ce qu'on anticipe le futur. C'est s'allier les meilleures compétences au niveau mondial pour justement réfléchir à ces questions-là, amener les meilleures écoles à s'installer, accompagner les projets. Moi, j'ai des amis qui ont pris des rendez-vous avec des ministres par Twitter en Rwanda. Donc aussi, on a une réactivité, une jeunesse d'esprit, un engagement et un suivi qui a gagné aussi la population. Ça, j'ai pu le toucher en discutant avec les gens. Il y a une culture qui a changé et on sait bien que la culture aussi, la mentalité agit. Et donc, le rêve rwandais aujourd'hui est possible. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est le rêve africain.
Alors, le rêve africain, Karim Sil, s'incarne à travers des personnalités comme vous. On va prendre un autre exemple. À 41 ans, Omar Cissé a une longue carrière de start-upper derrière lui. Après avoir lancé quelques entreprises et un incubateur à Dakar, ce diplômé de l'école polytechnique a créé InTouch. C'est un agrégateur de moyens de paiement et de services digitaux qui s'adresse d'abord aux professionnels ou aux commerçants. Omar Cissé était à Vivatech, dont Julien Clémenceau et vous-même nous parlez il y a quelques secondes, et il y a rencontré Olivier Roger, journaliste du service économie de RFI.
Comme vous le savez, en Afrique, il y a beaucoup de moyens de paiement liés au mobile money qui sont nés. Dans un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, vous pouvez trouver une quinzaine d'acteurs entre le mobile money, le transfert d'argent et autres. Et le marchand qui propose ces solutions est obligé d'utiliser plusieurs terminaux et plusieurs solutions. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons développé une interface unique qui permet d'accepter tous les moyens de paiement existants et qui permet de proposer par le marchand un large catalogue de services, le transfert d'argent, les assurances, l'achat de crédit téléphonique, etc. Nous sommes installés, nous avons démarré au Sénégal, nous sommes maintenant installés en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Mali, Burkina et Guinée et bientôt au Maroc.
Vous avez combien de clients ?
Nous avons aujourd'hui plus de 5000 points qui utilisent notre solution. Nous faisons à peu près 60 000 transactions par jour et nous comptons nous déployer dans les 38 pays dans les 4 ans qui viennent.
Donc ça s'adresse davantage aux professionnels, c'est-à-dire aux commerçants, qu'aux particuliers?
Ça s'adresse effectivement aux commerçants. Nous essayons d'être le partenaire de confiance du commerçant pour lui permettre d'accepter en toute sécurité toutes les transactions, mais aussi de les contrôler, d'assurer la gestion de la fraude, mais nous l'accompagnons aussi via une hotline 7 jours sur 7, de 7h à 0h tous les jours.
Quand est-ce que votre fintech a démarré?
Nous avons démarré en novembre 2015 et nous avons eu la participation de Atos et Total dans notre entreprise depuis décembre 2017.
Vous travaillez en partenariat avec Atos qui vous fournit les solutions logicielles ?
Atos nous fournit, nous héberge notre plateforme et assure la gestion de la sécurité et l'exploitation. Nous développons nous-mêmes toute la plateforme et nous avons comme un des clients principaux Total qui est aussi actionnaire chez nous.
C'était donc Omar Cissé, un entrepreneur sénégalais que vous devez connaître.
Je connais très bien, oui.
KMC. Oui. Il est emblématique de l'essor des nouvelles technologies.
Oui, j'aime bien Omar Cissé parce que Omar Cissé, donc lui, il a fait l'école polytechnique de Dakar. En fait, il faut le préciser. Donc, il a fait tout son cursus au Sénégal. Il démontre bien que aujourd'hui, on peut très bien étudier et avoir une très bonne qualité de formation en restant en Afrique. Et ben, sachant que
vous dites aux jeunes Africains, ne faites plus comme moi, n'allez pas au Québec vous former, n'allez pas à Londres, à Paris, aux États-Unis.
Mais c'est pour ça que souvent je dis que je suis pas un exemple, parce que sinon ils vont me dire lui est trop compliqué pour être un exemple, il a fait le monde entier, enfin bref, il vient d'une famille, etc. Omar Cissé était au Sénégal, il a très bien réussi en étant au Sénégal. D'ailleurs, la première société qu'ils ont montée, c'était suite à leurs études à Polytechnique, Sénégal, et à Dakar, et avec des amis à lui, ils avaient monté une petite société qui faisait du logiciel, 2SI, qui aujourd'hui est devenue d'ailleurs une des premières sociétés, une société très performante au Sénégal, qui fait des solutions et qui fournit des solutions à travers toute l'Afrique de l'Ouest. L'incubateur qu'il a géré après, c'est l'incubateur qu'on a lancé justement avec la stratégie de croissance accélérée et l'organisation patronale des technologies de l'information et de la communication du Sénégal. Et donc il a eu cette expérience après. Et il en est sorti en reprenant son bâton d'entrepreneur pour lancer InTouch, où il a eu le soutien de Total, d'Atos, qui lui a permis le succès qu'on voit bien. On voit aussi là, du coup, le rôle aussi que peuvent avoir des grandes entreprises pour accompagner des start-upers et leur permettre d'avoir une croissance et un développement plus rapide.
La France aussi a décidé d'avoir un rôle dans le secteur de l'innovation, dans le domaine de l'innovation en Afrique. Et lors de Vivatech, l'Agence française de développement, justement, a annoncé la transformation de son concours Digital Africa en une plateforme d'appui aux startups qui sera dotée de 65 millions d'euros avec de l'appui technique, un fonds d'amorçage, un fonds de capital risque. Est-ce qu'il y a des zones géographiques et des types de projets prioritaires? Comment ça fonctionne?
Alors là, ça va dans le sens des recommandations du CPA, hein, d'ailleurs du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Président Macron avait évoqué Digital Africa dans son discours de Ouaga, et là, ça n'est la matérialisation qui commence à se faire. L'approche aujourd'hui, c'est toute Afrique. Ensuite, la logique se veut une logique de plateforme. Donc une logique aussi basée sur une plateforme virtuelle informatique qui va reprendre les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ramener réconcilier la technologie et le bien commun, dans le sens où cette plateforme va aussi être une zone de confiance où les appels à projets qui vont être gérés, donc il y aura une fonctionnalité notamment de gestion d'appels à projets, donc notamment les projets que vont lancer l'AFD. Mais dans lesquels on va protéger les données. Donc des entrepreneurs aujourd'hui, ils participent à des challenges, ils savent pas où vont leurs dossiers, ils savent pas où ça finit, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que c'est récupéré. Donc on va leur garantir aussi cette sécurité, cette zone de confiance. Il y aura toutes sortes de fonctionnalités.
En termes de propriété intellectuelle, comment ça fonctionne?
La propriété est à l'entrepreneur. C'est son projet. C'est bien justement là qu'il faut commencer à amener des sécurités informatiques dans ce nouveau monde qu'est le monde numérique. Aujourd'hui, vous savez que si vous allez sur une plateforme comme Facebook ou autre, les données ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à Facebook. Ils font ce qu'ils veulent avec. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de voir des gens qui sont décédés. Malheureusement, ils ne peuvent même pas fermer leur compte. Donc on a aujourd'hui un vrai souci. Là, on parle d'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui il a un peu sa vie qu'il est en train de mettre dans un projet et il va le diffuser. Et moi, pour côtoyer les entrepreneurs tous les jours, c'est une vraie question qu'ils ont. J'envoie mon projet, qu'est-ce qui devient, qu'est-ce qu'on en fait. Je l'envoie à un challenge qui est fait par une banque, est-ce qu'ils vont le donner à un autre entrepreneur, qu'est-ce qui va se passer. Donc il faut créer cette zone de confiance aussi pour mettre tout le monde en confiance, tous les acteurs, pouvoir aussi les fédérer pour avoir un impact et permettre aux entrepreneurs de vraiment réaliser leur leur entreprise.
On avait encore beaucoup de questions à vous poser, Karim Si. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous pouvez retrouver, vous, les auditeurs de RFI, notre dialogue sur le site internet de Jeune Afrique, notre partenaire, ou de votre radio RFI. J'ajoute qu'un portrait vous est consacré, Karim Si, par un de nos collègues du site internet, Herman Boko. Donc, on peut retrouver en complément ce long portrait par Herman Boko sur le site internet de RFI à l'onglet L'Hebdo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.